Prince who call in, I wanna call in the seats.
Since I've been trying to.
It's all about CKUT 90.3 FM. Next week, Thursday, and time.
But you keep on saying you don't know what to do. Don't know much about you, yet you're always on.
On behalf of myself and Johnny Black and Nadine.
So all you gotta do
is here, right?
Leave it to time. Everything will be fine. Time alone can do anything. Time can move in.
In a land where non-profit radio depends on donations to stay on the air. In a time when it costs $60 an hour to broadcast our signal, only one person can keep CKUT alive. You. You have a chance to be part of the action. You have a chance to be a hero. Donate to CKUT during its funding drive to keep quality programming alive. Call 514-907-9424 or visit www.ckut.ca.
Bonjour et bienvenue à votre émission La Voix des Immigrants. Je suis Michaela, réalisatrice comme d'habitude. Donc, aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous allons parler de changement climatique. J'ai lu, en fait, un article sur les Nations Unies et puis j'ai pensé parler du changement climatique. Et en fait, dans l'article, on parle de l'impact des changements sur les pays en développement. Et je suis du Congo, comme vous le savez, et donc, je le suis, en fait, cette question des changements climatiques, en fait, on va parler, vous allez voir, du préludisme, donc ça me perturbe un peu. Et donc, nous allons parler de changement climatique. Nous avons des manchettes, des belles manchettes aujourd'hui. La campagne de financement, c'est qui a été 90.3 FM, donc qui a débuté le 17 mars, qui se termine le 27. Et donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui, nos deux super manchettes. Le gouvernement Legault veut investir 5 milliards pour rétablir le réseau de la santé. Et également, donc, nous avons donc, des investissements plus importants dans le plan vert, pour le plan vert, en fait, en lien avec les changements climatiques également. Donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. On se quitte pour une brève petite pause musicale, on se retrouve par la suite. Puis voilà, je vous souhaite, je n'ai pas eu le temps de vous souhaiter bonne année, je n'étais pas présente au début de l'année, donc en janvier, c'était impossible pour moi là, d'être en onde, donc je vous souhaite une belle année 2022. Lors de la dernière émission, on a parlé donc de néolibéralisme. Et donc, je voulais donc un peu comprendre cette réalité du néolibéralisme. On en parle tellement dans la littérature. Et puis, on parle tellement de façon négative. Et je voulais donc comprendre quels sont donc réellement les impacts. Quelle est réellement cette histoire, cette histoire du néolibéralisme. Donc, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, on se quitte pour une brève petite pause, puis on se retrouve par la suite avec nos deux manchettes.
CKUT's annual funding drive, CKUT Till Infinity, takes place from March 17th to 27th, 2022.
We have brand new merch available for our donors, including shirts, bags, and hats.
Donations over $30 will also be entered to win from a selection of exciting prizes from our sponsors.
This year's sponsors include
Lufa Farms,
Briar Patch Magazine,
Pop Montreal,
Encore Books and Vinyl,
Drawn and Quarterly,
La Bobineuse,
RIDM,
Mutech,
Centaur Theatre,
CNL Cycle,
La Maison des Bières,
Cinéma du Parc, Bobien and Dumisey,
Death of Vinyl,
La Rama Records,
Constellation Records,
Celluloid Lunch Records,
and Pizza Bouquet.
CKUT would like to thank our community sponsors whose generous support helps put the fun in funding drive.
For more details on prizes and to donate, go to ckut.ca/donate.
Me revoilà au micro. Donc, première manchette aujourd'hui. Donc, Québec donne un long coup d'accélérateur aux dépenses en santé. Donc, ce qu'on comprend, c'est que le gouvernement du Québec va augmenter ses dépenses en santé. Et tant mieux, hein, tant mieux. Vous allez voir qu'on va parler des infirmières, puis enfin, le recours abusif au temps supplémentaire sera terminé, éliminé, c'est possible, tant mieux. Donc, Québec donne un nouveau coup d'accélérateur aux dépenses en santé et consacre 5,2 milliards de dollars sur 5 ans à son plan pour rétablir le réseau, dont 1 milliard pour de nouvelles mesures qui seront annoncées sous peu par le ministre de la Santé. Bien évidemment, c'est un article que j'ai écrit dans la presse, un article d'hier ou du 22 mars. Donc, au total, 8,2 milliards de dollars seront prévus en santé sur 5 ans. En 2022-2023, 1,3 milliard est alloué afin de rétablir le système de santé et de services sociaux et de rehausser les soins et les services à la population, notamment en première ligne. Le budget Gérard, je crois bien que c'est le ministre de la Santé, Donc, le budget Gérard affecte 904,7 millions cette année au rétablissement du réseau, dont 196 pour instaurer une gestion décentralisée et orienter le système vers les besoins du patient. En tout, 604 millions doivent servir à changer la culture de l'organisation du travail, ce qui est une bonne chose. Donc, une série d'exemples comme des projets d'auto-gestion des horaires, l'aménagement d'horaires atypiques et l'augmentation des heures de travail dans une semaine sont énumérés dans le budget. Le gouvernement souhaite aussi éliminer le recours abusif, donc comme je le mentionnais, donc au temps supplémentaire, sans toutefois éradiquer cette pratique. Mais je juge qu'il devrait être éradiqué pour de bon. Donc, l'idée maintenant, c'est de dire que ça doit devenir un usage quasi inexistant, qui se résume à des cas de situations exceptionnelles que tout le monde est capable de comprendre. Et non pas donc un moyen de compenser le manque de personnel, a indiqué donc, la présidente du Conseil du Trésor, Madame Sonia Lebel. L'Alliance du personnel professionnel et technique de la santé, de son côté des services sociaux et la Centrale des syndicats du Québec ont pour leur part respectivement dénoncé le manque de mesures pour réduire l'enjeu du manque de personnel et pour s'attaquer à la pénurie de main-d'œuvre. La Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec a aussi rappelé qu'elle souhaitait que le Québec investissent dans des équipes de travail stables et dédiées par l'implantation de ratios sécuritaires. Le gouvernement prévoit aussi 394,2 millions en 2022-2023 pour rehausser les soins et les services à la population. Donc, ici, on fait référence donc, aux médecins de famille. Donc, normal, en fait, nous devrions tous avoir enfin accès à un médecin de famille. Également, on a un projet qui est prévu pour le Bas-Saint-Laurent. Donc, il s'engage à déployer graduellement et dans l'ensemble du Québec. Le projet, en fait, donc, il y avait un projet donc, de guichet d'accès implanté dans le Bas-Saint-Laurent qui devrait être hébergé donc, à l'ensemble du Québec. Donc, on parle d'un service de triage qui sera dirigé des patients orphelins vers différents professionnels de la santé autres que des médecins. Également, donc, on fait référence donc, au soutien à domicile. Donc, il bénéficie d'un crédit d'impôt remboursable pour le maintien à domicile désigné afin qu'il passe de 40% jusqu'à 40% en 2026. Québec prévoit aussi 128,5 millions sur 5 ans afin d'harmoniser les CHSLD publics et privés. Il prévoit conventionner une vingtaine de CHSLD privés et de les intégrer au réseau public. Et finalement, donc, le budget alloue 1,5 milliards en 5 ans pour les maisons des aînés. De 75 millions en 2022-2023, les coûts d'exploitation passeront à 501 millions en 2026-2027. Québec prévoit ouvrir 2640 places dans 33 maisons des aînés d'ici septembre 2022 et 3480 places au total dans 46 maisons d'ici 2023. Bon, voilà, bien, Québec prévoit augmenter ses dépenses dans pour le réseau de la santé, donc tant mieux, bonne chose. Également, seconde manchette, lutte au changement climatique. Le Québec, donc, vous l'avez vu lors des élections dernières, en fait, le changement climatique, c'est un super thème, madame populaire. Et donc, Québec va profiter des recettes tirées du marché du carbone pour mettre de l'engrais sur son plan de lutte contre les changements climatiques qui profitera $2 milliards de plus que prévu dans les 5 prochaines années. Au cours des prochaines semaines, le ministre de l'Environnement, Benoît Charest, présentera une mise à jour de son plan de lutte contre le dérèglement climatique, lequel s'appuiera sur une enveloppe de 993 millions de dollars de plus que celui qu'il avait présenté à l'automne 2020. Au total, donc, le plan pour une économie verte devrait donc s'appuyer sur des sommes de 7,6 milliards de dollars sur 5 ans. Sans donner le détail de chacune des mesures envisagées, le budget déposé mardi à Québec prolonge notamment la durée d'application du programme, donc de subventions à l'achat de véhicules éco-énergétiques. Donc, en fait, on parle d'une des mesures du fameux plan pour l'économie verte de Legault, probablement, et du ministre Charette. Donc, une de ces mesures, c'est de prolonger donc, notamment la durée d'application du programme de subvention à l'achat de véhicules éco-énergétiques roulés verts. Il réduit également, donc, le ministre Charette réduit également cependant la valeur des subventions accordées pour acheter des voitures neuves électriques et hybrides. Environ 53 000 personnes ont fait appel au programme, donc roulés verts, au cours des 2 dernières années, donc selon toujours en lien avec cette fameuse mesure de prolonger l'application du programme de subvention pour l'achat de véhicules éco-énergétiques. Donc, apparemment, environ 53 000 personnes auraient fait appel à ce programme roulés verts au cours des 2 dernières années. En 2030, le gouvernement Legault souhaite voir rouler 1,5 million de voitures électriques sur les routes du Québec. Et maintenant, concernant donc, les routes, donc toujours en lien avec ce programme pour une économie verte, près de la moitié du budget du prochain plan servira à financer la transition du secteur des transports. Dans son plan d'infrastructure, Québec prévoit d'ailleurs 2 milliards de plus pour un réseau routier dans les 10 prochaines années. Donc, un réseau routier, en fait, qui, on va parler donc de développer donc le réseau de transport collectif. Et voilà, qui devra avoir, on développe donc le réseau de transport collectif.
Tu consommes l'amour comme de l'eau, t'es à côté de la plaque. Chez toi c'est Tinder, resto, dodo, cinéma et pour finir on se plaque. Même si je m'habitue à ces va-et-vient, j'ai du mal qu'on en arrive même. Et c'est pour la violence que je dénonce, on s'est aimé pour l'amour, maintenant on se distance et on renonce. Sur ma vie, je n'espérais pas que ça soit comme ça, non, fallait me dire si pour toi je ne suis qu'un passe-temps. Même si je sais tu vas te barrer, viens quand même chez moi histoire qu'on danse, baby. Oh là là, ça c'est pas du zouk, c'est de la rumba, trap. Oh là là, tu confonds les pas chez nous, on danse de la rumba, trap. Oh là là, ça c'est pas du zouk, c'est de la rumba, trap. Oh là là, tu confonds les pas chez nous, on danse de la rumba, trap. J'espère tu sais lever, j'espère tu sais lever. Yeah, yeah. J'espère tu sais lever, j'espère tu sais lever. Yeah, 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 yeah. Et si je t'aborde avec mon deuxième cerveau, ne ferme pas les portes, je suis qu'un homme. J'ai du mal à penser autrement quand je te vois. Ne t'inquiète pas, avec le temps ça ira mieux. On est tous des victimes en pleine forme. Ce que je te dis, je le pense. T'inquiète pas, ça ira. Mais tu t'aimes plus ton téléphone. Quand je te regarde, ça me rend nerveux. Avec ou sans filtre, t'es mignonne. Mais ça te regarde, si là-dedans tu te crois mieux. Même si maintenant je le sais qu'on va se barrer, viens danser. Même si maintenant je le sais.
là, oh là là, ça c'est pas du zouk, c'est de la rumba. Trap, oh là là, tu confonds les pas chez nous, on danse, c'est la rumba. Trap, oh là là, ça c'est pas du zouk, c'est de la rumba. Trap, oh là là, tu confonds les pas chez nous, on danse, c'est la rumba. Trap, sur ma vie, j'espérais pas que ça soit comme ça. Oh, il fallait me dire si pour toi je ne suis qu'un passe-temps.
Voilà, ça c'est la rumba.
Ah, 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 baby.
Sur ma vie, j'espérais pas que ça soit comme ça.
C'est pas du zouk, c'est de la rumba. Trap, oh là là, tu confonds les pas chez nous, on danse, c'est la rumba. Trap, oh là là, ça c'est pas du zouk, c'est de la rumba. Trap, oh là là, tu confonds les pas chez nous, on danse, c'est la rumba. Trap,
j'espère tu sais lever, j'espère tu sais lever. J'espère tu sais lever, j'espère tu sais lever. J'espère tu sais lever.
Elle a toujours voulu me faire danser.
Alors voilà au micro, donc une fois de plus, donc j'espère que vous avez bien aimé par la pièce Rumba Trap de Ferigola. Maintenant, donc, concernant les changements climatiques et l'impact des changements sur les pays en développement, notamment en Afrique, donc je mentionnais que j'ai lu un texte intéressant des Nations Unies, le titre « Une catastrophe pour les pauvres, le changement climatique menace les gains du développement acquis ». Donc, rapidement, l'article dit que le changement climatique est devenu l'un des défis environnementaux les plus importants auxquels le monde est confronté. Il y a 20 ans, aux Nations Unies, Gros Alerme, Broadland, ancienne première ministre de Norvège et ancienne directrice générale de l'Organisation mondiale de la santé, attirait l'attention du monde entier sur la menace que le changement climatique fait peser sur l'environnement mondial. À la 15e session de la Commission de l'ONU pour le développement durable en mai 2007, ça fait quand même un certain temps, donc Madame Brundtland, donc l'une des trois envoyées spéciaux sur le changement climatique, nommée en avril par le secrétaire général, donc, a expliqué qu'il était certain que le changement climatique était causé par l'activité humaine et avait des conséquences sur la planète. Aujourd'hui, il existe un vaste consensus scientifique international pour reconnaître que les émissions de gaz à effet de serre causées par l'activité humaine, en particulier l'utilisation de combustibles fossiles et le déboisement, ont augmenté la concentration de ces gaz dans l'atmosphère. En conséquence, selon le groupe d'experts intergouvernemental de l'évolution du climat, les températures devraient augmenter de 2 à 5 degrés Celsius d'ici 2100, okay, c'est dans 40 ans, voire plus. Il est très vraisemblable que les augmentations de cette ampleur auront des effets néfastes importants sur le bien-être des populations et des écosystèmes naturels, notamment des conséquences économiques, écologiques et sociales d'une très grande portée. Il est vraisemblable que le changement climatique augmentera la prévalence des maladies à vecteurs comme le paludisme et la fièvre. Quand on parle de paludisme, on fait référence, je crois bien, à la malaria. En Afrique, la malaria est une problématique, encore une grande problématique. Et donc, là, j'imagine l'impact des changements climatiques. Je vois mal encore une augmentation des cas de malaria en Afrique. Là, ça me fait beaucoup de peine. Donc, il est vraisemblable que le changement climatique augmentera la prévalence des maladies à vecteurs comme le paludisme, la fièvre, de dengue, ainsi que l'intensité des phénomènes météorologiques extrêmes. Il entraînerait probablement une hausse du niveau de l'eau et de fortes inondations, ainsi qu'une pénurie d'eau dans les régions arides. Il engendrerait tout vraisemblablement une dégradation irréversible des ressources naturelles et des écosystèmes. Globalement, le changement climatique aura des effets dévastateurs pour les pauvres, à la fois en raison de la situation géographique des pays et des revenus faibles, rendant l'adaptation au changement climatique plus difficile. Alors que les pays en développement ont le moins contribué à ce problème, ce sont ceux qui supportent le plus lourd fardeau, donc après les pays pauvres, sont ceux qui supportent le plus lourd fardeau, ce qui menace les gains déjà obtenus en matière de développement. Les effets, donc les conséquences du changement climatique. Le changement climatique est une réalité et il aurait des effets sur notre vie. Il est vraisemblable que le changement climatique accélérera un rythme qui est difficile de prédire. Il va s'accélérer à un rythme qui est difficile de prédire et un grand nombre de changements induits seront irréversibles. Alors que le changement climatique est un phénomène mondial, son impact variera selon les pays et les communautés des pays en développement étant probablement les plus touchées. Et dans certaines communautés, les effets seront considérables et négatifs au cours des 2 ou 3 prochaines décennies. Dans certains pays, le changement climatique pourrait avoir des effets catastrophiques. Le programme des Nations Unies pour le développement a pour mission de s'attaquer à la pauvreté et de soutenir les pays dans leurs efforts visant à promouvoir le développement durable. À la lumière des impacts disproportionnés que le changement climatique devrait avoir sur les pays les plus pauvres, les Nations Unies travaillent avec les pays en développement pour mettre en place des mesures d'adaptation et d'atténuation qui pourraient réduire la vulnérabilité des pays pauvres et renforcer les moyens d'existence durable. Dans le domaine de l'atténuation, les Nations Unies ont encouragé l'efficacité énergétique et l'utilisation de technologies, en particulier de l'énergie renouvelable, qui libère moins de gaz à effet de serre. Pour ce faire, il a renforcé la gouvernance et les cadres politiques afin de créer un environnement propice à l'adoption et à la promotion de technologies propres. L'efficacité énergétique est la solution la plus rentable pour réduire les quantités d'émissions des économies en développement et une contribution importante à l'efficacité économique ainsi qu'à la sécurité énergétique. Elle permet également aux pays en développement de gagner du temps pour développer des technologies énergétiques qui polluent moins. Donc, on dit ensuite les Nations Unies ont considérablement augmenté donc leur activité de lutte contre le changement climatique au cours des 10 dernières années. Et vont continuer à le faire. Une institution à elle seule, ce qu'on dit donc par la suite, c'est qu'une institution à elle seule ne suffira pour enrayer cette problématique, répondre aux besoins grandissants des pays, surtout en développement. L'objectif donc des Nations Unies est de travailler étroitement avec les autres institutions de l'ONU et organisations partenaires afin d'offrir aux pays un ensemble de services d'aide technique qui tire parti de l'expertise de toutes les institutions de l'ONU et assure que font en sorte que les pays reçoivent l'aide dont ils ont besoin. La création d'un partenariat contre le changement climatique entre les Nations Unies et le programme, donc en fait les Nations Unies, puis bon, l'ensemble des institutions des Nations Unies, vise à réunir l'expérience et l'expertise nécessaire pour enrayer cette problématique. Notamment, donc, des investissements ont eu lieu en Afrique subsaharienne jusqu'à la hauteur de 1,2 million pour débuter pour l'instant, afin d'aider la région à accéder au marché du carbone, ainsi que la mise sur pied d'un projet d'adaptation multinationale destiné à réduire les risques et les vulnérabilités liées au changement climatique. Donc, c'est intéressant, c'est un peu complexe. Vous pouvez aller lire l'article, aller sur le site des Nations Unies. Vous tapez tout simplement le titre de l'article. Je vous le donne en anglais. Le titre de l'article est « Une catastrophe pour les pauvres, le changement climatique menace le gain du développement acquis ». Donc, il y a qui c'est ce qu'on comprend, c'est que c'est important. En fait, une grande menace pour l'humanité, je pense, même, changement climatique. Et ça m'a fait beaucoup de peine pour l'Afrique qui souffre déjà beaucoup. Je ne veux pas voir l'augmentation de malaria. Voilà. Donc, je pense que nous, les Africains, l'ensemble des pays, les pays qu'on fait, sûrement notamment, principalement, on devrait penser à cette question des changements climatiques et puis se mobiliser pour que les impacts soient les plus possibles, qu'il n'y ait aucun impact en fait, les plus petits possibles. Donc voilà, concernant les changements climatiques, en fait, on va poursuivre avec une vidéo, un reportage présent sur YouTube, un reportage de 20 minutes. Donc, il parle justement donc, des changements climatiques et de l'effet sur l'Afrique. Reportage en anglais, on se retrouve par la suite. Je vais parler donc de la campagne de financement de Security 90.3 FM, donc la campagne de financement pour l'année 2022, qui se termine le 27 mars. Et également, donc, on a un festival d'Afrique qui a débuté déjà, qui se termine en fait au mois d'avril. Donc, on se retrouve dans quelques, en fait, après l'événement de reportage. Et également, il y aura une pièce musicale, la pièce d'un artiste marocain. Je crois que c'est Kalimi, son nom. Donc, un artiste marocain que j'aime bien, donc j'aime bien la musique. Et puis, donc une pièce de, je pense, 3 minutes. À tout à l'heure.
Thank you very much. Now, of course, in 2021, there's virtually no part of any of our lives or business activity which has not been touched in any way by climate change. We'll be exploring these changes in the course of this series, from nature's displacement of persons, be they hundreds or hundreds of thousands, to farming, to the challenge of deciding who should implement climate adaptations, and more importantly, at what cost. But first, let's take a look at the big picture.
The biggest problem now facing the world is climate change.
Climate change, an existential threat to not only the environment, but to the economy.
We are on the verge of the abyss.
Climate change has drastically altered what used to be somewhat steady, predictable weather patterns for hundreds of millions of us. But things are changing. And as you will see shortly, they're not changing for the better. The last 10 years have been described as a decade of exceptional heat. Those are not my words, but that's the description used by the World Meteorological Organization. 2020, you see, was one of the three warmest years on record. It was just after 2016 and just barely ahead of 2019. But these are dry numbers. It's one thing to say, here's the data. It's another thing entirely, though, to actually see and be subject to the effects of these changes. For millions around the world, this is not just dry numbers on an Excel spreadsheet or in a United Nations report. Take Sudan, for example. That country received some pretty heavy rainfall in 2020. That raised the Blue Nile to levels not seen in a century, at around 17 meters. Water levels, in fact, had risen to a point where the pyramids of Meroe, these are structures that are over 2,000 years old, face the very real threat of being flooded and possibly irreparably damaged. With over 2 million hectares of farms flooded, over a million tons of grain destroyed, the extreme weather combined with the worst desert locust invasion in decades has left nearly 10 million people in Sudan deeply food insecure. But there was severe flooding in other parts of the continent too. The Niger River, for example, in West Africa, that also rose to record levels. With that much water sloshing around the continent, that also amplified yet another problem. The worst desert locust invasion that the whole of Africa has had to deal with in decades, in some countries' cases, in almost a century. Ethiopia, Kenya, Somalia, they all still continue to struggle with that problem, even in 2021. By the end of November, there were 13 named storms in the North Atlantic. That is the largest number so far on record. According to Christine Lagarde, the head of the European Central Bank, the estimated damage that you could essentially put in monetary terms attributable to natural hazards last year alone was on the order of $210 billion. That's essentially like taking the combined GDP of Kenya and Ethiopia and destroying that just through natural causes and nothing else. In financial circles, this has led to another emerging problem. In order to limit a rise in global average temperatures to less than 1.5 degrees Celsius, it essentially implies that a lot of oil and gas resources have to remain in the ground. But if you're a country that's heavily reliant on oil and gas revenue now, like Nigeria, or in the future, like Uganda, then these assets, as the Bank for International Settlements puts it, may suffer from unanticipated sudden write-downs, devaluations, or conversion to liabilities. Put another way, these oil and gas assets may become worthless a lot faster than expected. But this then also raises another related argument. If oil and gas assets need to remain untouched and in the ground, then whose oil and gas assets should remain untouched? Should it be Nigeria and Angola, whose greenhouse gas emissions are nowhere near as large as those of the United States, which is among the top three oil producers in the world? How do you make that choice? That's just one of the many knotty questions that countries must tackle ahead of the UN Climate Change Conference later this year in November. In the meantime, though, the damage being inflicted by climate change continues. In 2019, tens of thousands of Kenyans living close to the shores of lakes in the Rift Valley were displaced by steadily rising water levels. From Lake Bogoria to Baringo to Naivasha, the rise of these lakes has been relentless, even today. As CGTN's Nick Mudimba now reports, experts are warning that this trend may not ease in future.
Early 2019 was tough for many near the Rift Valley lakes. Families were displaced due to the surging waters from different lakes. Businesses were shut, schools closed, and human-wildlife conflict took a different turn. It wasn't. This is Lake Baringo, one of the two freshwater lakes in Kenya and part of East Africa Rift System. The situation here hasn't improved and scores have been forced to move for safety. The water levels have surged to abnormal levels. Many residents who were born and raised in this area are still surprised. What was once their beauty and pride has now become a tormentor.
I've lived here all my life, and at one time the lake was about 3.5 kilometers away from where we're standing. It was all dry. That is in the 90s, early 90s.
In the lake, the threat is visible. Crocodiles are now closer than ever. The risk is clear. Just a few meters away, we spot a fisherman. His facial expression summarizes dejection. The amount of fish has greatly reduced, affecting their sole economic activity, and the well-being is shaky.
There was so much fish on this lake before, but now things have changed. There is no fish. Fishing frequency has reduced now. I only fish twice a day.
This school is one of the learning institutions in this region that was affected by the flooding waters. The evidence of its existence is all clear.
It's been more than 1 year since the students in this class enjoyed the comfort in their studies. But right now, the climatic change wrath took no prisoners and had to build on a higher ground for them to continue with education. The hope right now is actually just to pray that the waters will actually subside for them to come back and enjoy their education.
Climatologist Jackson Kenyanjui is a PhD student taking agricultural meteorology and climate change at the Chinese Academy of Agricultural Sciences. He's also the founder of Climate Change Kenya.
The Rift Valley comes from a depression because first and foremost, the Rift Valley was formed through the tectonic activities. It moved. And science has shown that these tectonic movements actually move at a rate of these plates. They are separating at 1 centimeter every year. And the tectonic movements that we're exhibiting right now are in regard to, one, we have the Nubian plate moving to the west, and we have the Somali plate moving to the east. They are all separating from the Arabian plate. So all these plates, once they are moving apart, expect that there is underground water. First of all, you have to notice that the earth is made up of 70% water. And in this 70% amount of water, not all of it is on the surface. We have underground water. So this underground water, some of it is stored in the aquifers. So once these tectonic plates start moving, expect this water now to come onto the surface. So that's now we see there's a surge in the increase in these water levels in this lake. Some of it is coming from underground.
Other causes include humanity use of fossil fuel, deforestation, increasingly intensive agriculture, global warming, waste disposal, among others. Climate change, biodiversity loss, waste and pollution are some of the pressing issues Kenya took to the floor of the United Nations Environment Assembly in February. Nick Mudimba, CGTN, Baringo, Kenya.
From East Africa, let's head south. South Africa is the most industrialized economy on the continent, but it's also the largest emitter of greenhouse gas emissions in Africa. Over 90% of the electricity generated and consumed in the country comes from coal-fired power plants. And two of those, in fact, Medupi and Kusile, are among the 10 largest in the world. CGTN's Sumitra Naidu takes up the story.
South Africa is responsible for half of Africa's total carbon emissions. That's because 90% of electricity in the country is generated from coal. Eskom, though, has been included in government's plans to reduce emissions.
In the context of our history and where we're going to in the future, what's important to bear in mind is that the coal plants that are contributing to the emissions were built many, many years ago. And so we see that as we shut down those plants now and start to replace them with lower carbon technologies, we will have a positive impact on the NDC targets and our contribution to the Paris Agreement. I think our role is very pivotal and key to South Africa achieving its NDC targets.
The long-term emissions pathway will see South Africa's emissions peak, then begin to plateau before eventually dropping down to net zero emissions by 2050. But the strategy also concedes substantial and rapid emission cuts are required.
However, it comes with risks to economic growth and sustainable development. Shutting down coal means investing heavily in renewables and cutting jobs. There's an estimated 82,000 people working at the mines, with an additional 50,000 in companies that burn coal.
We see a lot of opportunity coming in the development of renewable technologies themselves, where there's potential to create a large number of jobs through the value chain of renewable energy development, especially if we do renewable energy at scale. There's a huge potential for us to manufacture solar panels, but also on the wind side, you know, things like the gantries, like the poles, the towers, you know, all of those things that you need, there's a possibility for us to manufacture in the country. So yes, there will be job losses, but there will be job creation.
Several old coal-fired powered stations are due to be decommissioned over the next 10 years as part of South Africa's new climate strategy. But its success will depend on political will and deep pockets.
All lenders and investors must urgently end financing for any new fossil fuel projects, and they must implement plans to responsibly phase out financing to existing fossil fuel projects. Because every single fossil fuel project that is currently planned or under development is decreasing our chances of reaching the goals of Paris.
Parliament is expected to adopt higher ambitions for South Africa's emission reduction contributions in line with the Paris Climate Accord by June, ahead of COP26. A new presidential commission on climate change has also been established to ensure the country makes the changes that are needed. Sumitra Naidu, CGTN, Johannesburg, South Africa.
So then, from South Africa, let's head west. With per capita carbon emissions of barely 0.7 tons back in 2017, Nigeria's emissions are a fraction of other countries on the continent. The equivalent figure for South Africa in that year was 12 times higher. Now, despite its small emissions footprint, Nigeria has seen a steep rise in extreme heat and accelerated desertification. The latter is partly responsible for exacerbating the conflict that we're seeing between pastoralists and farmers, especially in the country centre. Here's CGTN's Deji Badmus with that story.
This seaside community in Lagos is a clear example of the visible impact climate change is having on Nigeria. The Alpha Beach community is rapidly being submerged because of rising ocean levels in this part of Lagos, threatening this community of over 10,000 people. In the north of the country, desert encroachment and drought are driving people farther inland. This often leads to clashes between farmers and pastoralists who are in search of water and pasture for their herds. Analysts blame it all on climate change.
When we have this long series of droughts, the soil, you know, thickens, and if eventually it rains, rather than the soil absorbing the water, that will be difficult because of the hardness of the soil. So the water will not be able to percolate and it begins to flow, and that creates a flash flooding, which is what we've been having in the Middle Belt.
This is a common sight in Nigeria's oil-rich Niger Delta. Gas flaring is a huge environmental challenge in the region. Data from the country's National Oil Spill Detection and Response Agency, NOSDRA, shows that Nigeria flared 1.7 billion cubic feet of gas between 2012 and 2020, valued at $6 billion.
The impact of gas flaring is very, very significant. It is a waste of resources. In one of the reports of the World Bank, it was explicitly reported that the gas being flared is enough to power the whole of the African continent.
Gas flaring and oil spillage combine to make Nigeria's Niger Delta region one of the most polluted places on the planet. The government had targeted to end gas flaring last year, but it missed it, leaving the country to aim for the 2030 target of the Paris Accord. It's also facing challenges in addressing the devastation caused by oil spillage in the Delta region. But the government is driving a campaign for cleaner energy. It's pledged to cut its greenhouse gas emissions by 20% by 2030. It's also launched an ambitious plan to have 1 million cars run on gas by the end of this year.
Nigeria will champion those initiatives that will surprise the rest of the Africans. Just keep your fingers crossed in the next few weeks as you see some more initiatives that are coming from the Office of the Federal Minister of Environment in tackling climate change beyond what we know.
There is indeed a gravitation towards cleaner energy in Nigeria. More solar panels are popping up on rooftops across the country. The government itself has launched a massive solar power project aiming at 5 million solar connections for off-grid communities. A local automobile firm recently unveiled the first locally assembled electric car in the country. So everything seems to be coming together as Nigeria shifts towards cleaner energy. But then, a lot of work still lies ahead. Deji Badmus, CGTN, Lagos, Nigeria.
Let's head over to North Africa. People living along Tunisia's coastline are increasingly becoming vulnerable to rising sea levels. Increasing coastal erosion and warmer sea waters are also threatening habitats that are vital to sustaining human activity and marine biodiversity too. As CGTN's Adin Chouachi now reports, for a country where 1 in 10 people are employed in the tourism sector, these changes are a significant problem.
Hassan is a fisherman in the city of La Goulette in northern Tunisia. He was born and raised near the port, where he now earns a living through fishing. Hassan says climate change has had a negative impact on his work.
Fish populations are declining and fish food is becoming rarer as the sea warms. Some species have disappeared from this area over the past 4 decades. They were replaced by some invasive species. The decline in the size of fish is also noticeable, while the quantity is very limited.
Experts have warned that diseases affecting some marine species are spreading. Many traditional fishermen fear they will lose their main source of income due to climate change.
Climate change is impacting fisheries. The local economy depends on fishing. Thousands of jobs could be lost if the state doesn't act quickly.
The country's Secretary of State of the Sea says climate change poses a major challenge. the Tunisian government has launched several projects to protect sandy beaches and coastal aquifers.
The state is providing the necessary means and financial resources to protect the coastline and the population, especially fishermen who depend on the sea. In addition, Tunisia's coastline has a huge potential for the development of the blue economy. There's an urgent need to build the marine ecosystem's resilience against climate change.
A recent study by the Tunisian Union of Agriculture and Fisheries has revealed that climate change has affected some fish species that have shifted away from shallow coastal waters, where temperatures will increase fastest, into deeper, cooler waters.
The partnership between the Department of Maritime Affairs and several international organizations, as well as the civil society, aims to improve livelihoods on the coastline. Tunisian authorities have urged Mediterranean countries to cooperate in order to limit the impact of climate change. Adnan Shawishi, CGTN, Tunis.
And that story from Tunisia, a country on the shores of the Mediterranean, wraps up this snapshot of how climate change isn't just changing government policy. It's changing how we do business. It's changing our daily lives across a continent that's home to over 1 billion people. As the Paris Climate Agreement turns 5 this year, the question of what is the ideal adaptation path and who will bear the costs of that adaptation still remains. Back to you in studio.
CKUT is once again preparing to launch our yearly funding drive.
Join us for our 35th annual funding drive, CKUT Till Infinity. The rocket ship needs $35,000 to blast off into a whole new level of community radio, and we need your help. We will begin collecting funds for our expedition on Thursday, March 17th until Sunday, March 27th. Donate in a few easy clicks online at ckut.ca/donate or by calling 514-907-9424. CKUT Till Infinity and Beyond.
Me revoilà au micro et donc vas-y 10 minutes à l'émission. Donc je vais vous parler de la campagne de financement mais juste avant. Donc pour faire le lien avec la situation des changements climatiques et l'impact en Afrique, j'ai pensé et puis je vais en parler de façon plus, je serai officielle à les organismes congolais. En fait, entre autres à l'OPCC, l'Organisation des professionnels et professionnelles et professionnels congolais du Canada. Donc, j'ai eu l'idée de mobiliser en fait que la communauté congolaise du Québec, ça peut être l'ensemble des communautés africaines et même, bref, les différentes communautés culturelles. Mais j'ai eu l'idée que la diaspora, donc la communauté congolaise ici au Québec, se mobilise pour participer au développement du pays. Ce que je disais dans un document que j'ai préparé, que je vais présenter, c'est que Tshisekedi a dit lors de son élection, je pense, je pense que c'était en 2017, qu'il voulait donc que les Congolais aient accès à une vie, là, je serais plus, à une réelle vie, une vie normale, tranquille, paisible, etc. Donc, je me suis dit qu'il fallait que nous, qu'on se mobilise pour aider Tshisekedi à assurer une vie plus normale, en fait, à l'ensemble des Congolais, des citoyens congolais. Et donc, un projet dont je parlerai éventuellement davantage. Et puis, entre autres, justement, de ce projet, je me suis dit qu'il fallait penser à arriver, mais de façon définitive, la malaria. Je pense que beaucoup d'Africains il serait bien qu'on pense à retourner en Afrique, mais c'est bien de la vie ici au Québec, en Occident, mais nous ne sommes pas chez nous nécessairement. Et donc, mais retourner en Afrique signifie faire face à la malaria. Nous ne sommes pas immunisés contre la malaria, donc ça peut être problématique pour nous, même si c'est pour qui pensons à s'établir. Je pense à m'établir, à retourner vivre au Congo dans 5 ans à peu près. Donc, il va falloir me viser pour enrayer la maladie. Et donc, voilà. Maintenant, donc, concernant la campagne de financement, donc, elle a débuté le 17 mars, elle se termine le 27 mars. Cette année, on prévoit donc aller chercher une somme de, je vous le mentionne tout de suite, une somme, je pense, bien de, c'est 35 000, je pense, bien que oui, 35 000. Rapidement, vous pouvez chercher l'information pour cette campagne de financement sur funding.security.ca, donc funding pour funding.security.ca. Également, donc, giving wavessécurité.tumblr.com. OK. Funding.security.ca, donc vous allez trouver l'ensemble d'informations, ça va être plus facilitant, j'imagine, pour vous. Mais donc, on a un objectif de 35 000 $ cette année. Puis en gros, c'est ça. La campagne de financement aujourd'hui, cette année, c'est Sécurité jusqu'à l'infini. Et donc, on fait référence ici aux racines de la station basée dans le vieux propre. Notre passé marqué par la persévérance et la résilience. Donc, on veut garder les ondes en vie et avec de la musique et des actualités émanant du terrain et des histoires de différentes communautés vivant à travers la ville. Donc, on veut que ces qualités voilà, restent en vie pour cette raison. Donc, concernant les dons, il y a sécurité.ca/donate. Sécurité.ca/donate par téléphone au 514-907-9424, 514-907-9424 ou par la poste au 3647 University Montréal, Québec, H3A2D3. 3647 University Montréal, Québec, H3A2D3. Donc, par la poste, en fait, par téléphone, à nouveau 514-907-9424. Donc, voilà pour la campagne de financement. On fait peu 35 ans également. Donc, voilà, on reste en vie. Maintenant, pour le Festival Vue d'Afrique, il débute le 26 mars, du 26 au 31 mars en ligne. Et du 1er au 10 avril en ligne. En fait, en salle, vous avez le site internet vuedafrique.com ou vuedafrique.ca. Je vais déjà vous le mentionner, c'est vuedafrique.com, je pense bien. Et puis, voilà. Puis, pour terminer, à nouveau, comme d'habitude, vous savez que je fais du bénévolat au Centre des travailleuses et travailleurs immigrants et puis au Centre, nous avons donc l'Association des travailleuses et travailleurs d'agences de placement et travailleuses et travailleurs étrangers temporaires. Et puis donc, comme d'habitude, donc pour toutes les personnes qui vivent des problématiques en matière de droit de travail, conditions de travail, voilà, vous pouvez contacter le centre et puis nous avons donc des avocats, des travailleurs sociaux qui sont là pour vous aider. Donc voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, vous pouvez rejoindre notre équipe, contacter le département des nouvelles au 514-448-4041 poste 6788, 514-448-4041 poste 6788. Par courriel à news@commercialsecurity.ca. Vous avez également les réseaux sociaux Twitter et Facebook. Notre prochaine émission, le 28 avril 2022. Puis, voilà pour l'émission d'aujourd'hui. Donc, j'espère que vous avez bien aimé. J'aurais aimé être là le 1er janvier. Je devais être là, mais j'étais épuisée. Donc, j'ai dû, pour cette raison, dire à la prochaine mois. Mois de février, je devais être présente. Vous avez, j'ai envoyé des fichiers à notre coordonnateur. Donc, on a parlé de néolibéralisme, Donc, j'espère que vous avez bien aimé sur le néolibéralisme. J'ai essayé de comprendre l'impact du néolibéralisme sur mes citoyens et citoyennes du Québec. Puis voilà, est-ce que vraiment le néolibéralisme, comment dire, est-ce que c'est problématique ou pas? Est-ce que c'est un enjeu qu'il faut considérer? Puis voilà. Donc, c'est ça. Et donc, prochaine émission, je répète, donc le 28 avril 2022. Donc, je vous souhaite une belle fin de journée, je vous souhaite une belle fin de semaine. Je vous souhaite donc un bon festival Vue d'Afrique. Je vous demande, si vous voulez donc de donner des dons ou d'offrir des dons à la radio. C'est qualité 90.3.fm. C'est ça, 90.3 FM, puis voilà. Donc, on se retrouve le 28 avril, et puis, voilà. Pensons au changement climatique. Réalisons que le changement climatique a un impact réel. Puis voilà. Donc, on sait ce qui va se passer. J'ai lu l'article des Nations Unies, puis j'ai commencé à craindre un peu cette histoire des changements climatiques. Donc, je pense que C'est important de décider d'en apprendre davantage, puis de se poser la question, est-ce que vraiment, ce que les Nations Unies racontent, est-ce que ça fait du sens, puis si, il faut s'assurer en fait, que cette situation, de minimiser l'impact, en fait, d'enrayer la problématique, toutes les problématiques liées au changement climatique. Bon, voilà, au 28 avril prochain.
En cas de symptômes s'apparentant à ceux de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge, la perte du goût ou de l'odorat, vous devez passer un test rapide de dépistage à domicile. Si le résultat est positif, isolez-vous à la maison et respectez les consignes d'isolement. Si vous n'avez pas de test rapide, isolez-vous selon la durée prévue. Consultez québec.ca/isolement pour connaître toutes les consignes. Un message du gouvernement du Québec.
Good evening. It's 6 o'clock. You're listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and at CKUT.ca, the show about theater on the radio, from drama to musicals to burlesque to comedy and everything in between. Professional, student, and community productions in and around Montreal, where we spell theater with an R-E at the end. I'm your host, Sarah Day, recording from home on Thursday, March 24th, 2022. On tonight's show, my guests. Director Vea on bringing a youth theater play to Télé-Québec and doing it all in one take.
Is Kate and Sam are taking this decision, and is it a good decision? And later on, because it is a story about those two girls that are stealing the heart of this man. So the question of like, can you go around in the world without a heart and be a good person?
Dancer Sujit Vadia on breaking the binary of a traditional dance form.
I needed more. I needed to kind of sense where my voice was, what my voice was in relationship to the dance, and also somehow needed to find connections between my personal life and this dance practice that I was so deep.